Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Nous sommes mardi matin et ce matin nous avons la grande chance de recevoir Claude Muret qui nous vient du canton de Vaud en Suisse, enfin qui nous vient de Suisse, qui a beaucoup travaillé dans le cinéma, qui a collaboré à des degrés divers à une soixantaine de films, qui a fait l'ouverture du Salon des Sciences, là, du Pavillon des Sciences à la Villette, qui a fait un certain nombre de choses que nous allons évoquer, et qui est là parce qu'il a un projet. Claude est né en 1947, donc il a passé 75 ans, 76 ans dans ce coin-là, et brusquement, dans sa vie, lui sont revenus des souvenirs, et il a décidé de consacrer un film à sa maman. Sa maman ayant vécu des événements assez dramatiques dans les années 30, à l'orée des années 30, quand Genève était dirigée par, un peu avant, le socialiste Pierre Nicole, s'il s'appelait Pierre, Léon Nicole. Et donc nous allons vous parler de tout cela dans la première demi-heure. Nous allons faire un petit portrait de Claude Muret. Et dans la deuxième demi-heure, nous allons parler de son projet qui s'appelle La Cervelle. Et donc ma première suggestion, c'est si je dis que tu es vaudois, est-ce que tu l'acceptes ?
Oui, j'accepte tout à fait. Je serais prêt à le revendiquer même. Il y a deux formes de vaudois. Il y a les vaudois, la secte hérétique, qui est aussi assez sympathique. Et puis, il y a les vaudois du canton de Vaud, quoi, qui est un canton assez central dans la Suisse romande.
Et donc, oui, effectivement, en 73, tu écris un livre qui va paraître sans nom d'auteur, parce que tu considères que tu es le porte-parole d'une communauté de gens qui ont vécu ensemble. Et ce livre s'appelle « Mao Cosmique ». Tu l'écris suite au suicide d'un des membres de la communauté. Tu quittes la Suisse, tu vas vivre un an en Italie pour écrire ce livre, pour te consacrer à ce livre. Donc ça, tu l'écris en 73, il sera publié aux éditions de l'Âge d'Homme en 74. Je viens de le lire avec beaucoup de plaisir et je le recommande chaudement. Je le mettrai sur la page podcast, les références, pour que vous puissiez vous le procurer. Vous devez absolument le lire. Ça me paraît indispensable si vous voulez critiquer les boomers de façon intelligente. Et dans ce livre, tu dis des choses assez belles, oui, sur le paysage suisse, sur le canton, sur la plage après Vranches. Et aussi, bon, c'est une époque où on se libérait sexuellement, donc tu es très souvent tout nu sur des terrasses d'hôtels, en train de regarder les vignes, Dieu sait toutes les cochonneries, tu te roules dans l'herbe, tu fumes des joints, tu prends du LSD, tu fais beaucoup de politique. Tu fais partie d'une tendance maoïste qui n'est pas Spontex, contrairement à ce qui est marqué dans les rares biographies que j'ai trouvées, puisqu'elle est anti-ultra-gauche, enfin qu'elle a de la peine à se définir, qui est extrêmement inventif, dans un mouvement qui s'appelle Rupture, et qui n'est pas non plus dogmatique, qui n'est pas stalinienne, enfin qui n'est pas... Et il faut peut-être reprendre au début une chose très importante. Ton père s'appelle Martin Muret.
André
Muret, putain, je suis mauvais. André Muret, il est né en 1909. Il était un homme politique très enfin, pas important, mais c'est un homme politique qui a gravi tous les échelons de la politique en Suisse et qui a fait partie d'une espèce de chambre du Parlement suisse qui s'appelle le Conseil national. Et donc, en tant que représentant du Parti communiste, qui est quand même très impressionnant, tout ça est-il vrai ? C'était un avocat très brillant, mais qui n'a fait que de la politique toute sa vie.
Il n'a jamais été avocat, en fait.
Et donc, il était caustique, ironique, quelqu'un de brillant. Et donc, toi, tu fais du droit, évidemment, comme ton père, pour l'égaler. Tu vas à l'université et au lieu de faire un doctorat de droit, tu écris Mao Cosmique. Mm-hmm. Tu es d'accord avec ça ?
À peu près, oui. Enfin, sauf que de faire le droit, pour moi, c'était à la fois une idée militante de devenir un avocat de la veuve et de l'orphelin. Et puis, il y avait ce fameux mantra qui disait « Le droit mène à tout à condition d'en sortir ». Donc, j'avais fait un premier semestre de lettres, mais je n'avais pas eu mes signatures. Donc, j'ai arrêté, c'était très bien. Et puis, mon père était effectivement conseiller national. Donc, c'est l'Assemblée nationale suisse. Ils n'ont jamais, évidemment, été très nombreux. Les communistes en Suisse, il y avait... D'ailleurs, Staline a toujours dit un truc qui m'a frappé. Il a dit « Le socialisme en Suisse, autant sceller une vache », il disait. Et du coup, effectivement, à part... Bon, il y a donc trois entités, quatre si on veut être précis. Il y a les Suisses allemandes qui est majoritaire, Suisse française, Suisse italienne qui est minoritaire, etc. Donc les forces communistes ont été assez importantes dans la Suisse romande. Genève a eu un maire communiste, c'est d'ailleurs lui qui a reçu le pape, je ne sais plus son nom, là, le bouffon polac, c'était comment il s'appelait ?
Jean-Paul II ?
Non, avant.
Alors, il n'y a eu qu'un seul Polonais, mais c'est Jean-Paul II.
Non. Enfin, écoute, on ne va pas commencer
celui qui a battu le mur, en fait.
C'est lui, ouais. Tu dirais que c'est Jean-Paul II ?
Non, Jean-Paul II, mais je ne sais plus son nom non plus. Bon, non, on a l'air con, mais il était
pas...
Alzheimer en plus à la fin. Enfin, j'ai un peu travaillé.
Au début aussi, à mon avis.
Non, mais à la fin, il a été bien.
Non, et puis il a joué un rôle considérable. Ouais. Non, mais c'est juste pour mentionner que le parti suisse du travail, ouais. Parce qu'il ne s'est pas appelé Parti communiste, c'était un espèce de rassemblement en 1944 entre des socialistes de gauche, notamment les Nicolistes, dont tu fais allusion à Léon Nicole. Et le petit parti communiste et d'autres forces, quoi. Donc ça s'appelait le Parti suisse du travail. Et puis, il existe toujours d'ailleurs, toujours aussi minoritaire. Et puis, donc voilà, ils étaient 4 ou 5 conseillers députés, quoi.
Et donc tu nais dans un milieu très particulier, quoi.
Je nais dans une famille communiste.
En Suisse.
En Suisse, c'est-à-dire... comment dire, il y a une espèce de pression sociale incroyable. C'est difficile de s'imaginer à quel point... Même les profs, à l'école, je veux dire, à la petite école, me disent « Ah, mais tu es le fils du communiste !» Et du coup, ça crée des trucs... Bah, par exemple, ma sœur, elle a carrément tourné le dos à la politique parce qu'elle en avait marre. Moi, au contraire, ça m'a un peu fait faire bloc. Et donc, pour moi, j'ai une... Je considère une grande chance, quoi, d'avoir eu des parents communistes, comme on dit.
Mais c'est là que c'est assez étonnant, parce que tu mélanges ça à une espèce de... On est donc le long du lac Léman, et toi, tu ressembles à un surfeur californien. tu parles de méditation, par exemple, dans Mao Cosmique. Ça m'a beaucoup impressionné aussi de retrouver ça. Ça m'avait échappé, je pense, dans mes premières lectures. Et puis, il y a la drogue, quoi. Il y a le LSD, il y a le hashish, il y a une libération. Tu essayes de faire une synthèse entre une activité révolutionnaire encadrée à un minimum et puis une libération du corps, une libération de l'esprit. Enfin, je dis que tu essayes, c'est pas vrai. Tu vis ces choses.
D'où le cosmique
du titre. Ouais. Et tout le côté reichien des pratiques. On pensait effectivement que la société tenait sur la répression sexuelle, ce en quoi on se trompait totalement, puisque Internet a fait une démonstration fantastique. Enfin, la libération des mœurs, ça n'a absolument pas changé le système, mais on se trompait totalement. Et le libertinage est plutôt en face avec le libéralisme. C'est une marchandise, quoi, comme les autres. C'est très frais, cette recherche. Et puis, il y a un mort, quoi, dans ces cas-là qui freine. Mais il faut dire aussi que tu avais... dans Mao Cosmique, le mort semble lié à la politique. Et moi, dans mon vécu, j'ai le même âge que toi, les morts semblaient liées au LSD plutôt, en général. Il y avait des garçons qui craquaient sur la violence de l'apport de liberté extérieure qui était trop forte.
Non, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Quoi. C'était, lui était en plus, il s'appelait Jean-Louis, celui qui était mort. Lui, il n'était pas dans la dope. Pas du tout. Au contraire, il avait même il avait des problèmes de ce qu'on appelait à l'époque maniaco-dépressifs, des phases up, des phases down, qui aujourd'hui s'appellent borderline ou je ne sais pas quoi. Et donc, il faisait attention, non, voilà.
Il y a une caractéristique très forte des années 70, c'est l'importance que prend la psychiatrie dans la répression. On a beaucoup de films, hein, on a Family Life, mais c'est très très présent. Et pour notre génération, il y a l'antipsychiatrie, enfin, il y a un gros travail autour il y a Deleuze et Guattari, enfin, il y a plein de choses. Il y a un gros travail autour de cette notion et c'est ton livre est très, très représentatif de l'époque et il a quand même quelque chose. Son deuil est reculé infiniment et il arrive à exprimer une certaine joie, prime sautière, hein, une certaine danse comme ça, comme dans Shakespeare, les contes d'une nuit d'été, ça s'appelle. Quand il y a les petits faunes et les petites déesses qui dansent la nuit à la pleine lune. Il est resté quelque chose, il y a une écume de fraîcheur extrêmement sympathique dans Mao Cosmique qui est restée.
Qui appartenait, je pense, à l'époque en question. Quoi.
Oui, alors il y a plein de points extraordinaires dans ce livre. Il y a par exemple la présence du MLF, des préoccupations écologiques. Les filles, elles militent, elles montent à Paris, donc on est vraiment... la création du MLF, c'est 72, hein, donc on est, on est vraiment à la pointe de l'actualité des luttes.
Et nous, on prend ça en pleine poire à ce moment-là.
Oui, bien sûr.
On est vraiment... alors qu'on avait quand même un pouvoir indiscuté, indiscutable. Là, tout d'un coup, quelque chose se passe qui fait qu'on est obligé de regarder les choses autrement. Ça aussi, c'est une chance énorme, quoi. Et donc, oui, c'est un mélange de tout. Bah, c'est quand même une période de libération. Le maître mot, c'est libération.
Il y a une remise. C'est surtout pratique, quoi.
Oui.
Il faut imaginer un mec nu dans un bain avec deux personnes habillées sur des tabourets à côté de lui et la discussion est normale.
Elle est normale.
Elle est normale.
Ouais.
C'est ce genre de truc.
Oui. Mais en même temps, ce qui est aussi marrant, c'est pour ça que c'est un mélange que tu relèves à juste titre. Et en même temps, on est devant les usines, c'est-à-dire, en même temps, on a des rapports avec les apprentis, avec certains
vous
ouvriers.
Vous vous levez à 6h du matin milite, pour aller distribuer des tracts.
Voilà. Et
Après une nuit blanche, alcoolisée.
Oui, et puis les ouvrières souvent nous disent « Alors, les étudiants, vous êtes levés tôt ce matin. » Et ça, se fout de notre gueule, mais elles sont sympas. En plus, c'est souvent des travailleuses immigrées, beaucoup d'italiennes à l'époque, c'était avant les vagues. Espagnol, portugaise, et puis ensuite, et tout. Donc, il y a ce mélange, quoi, qui est quand même assez symptomatique de l'époque, en fait.
Et il faut bien voir qu'on est dans une société qui est très caractérielle, avec des gens qui sont enfermés à l'intérieur de leur propre tribu, et que toutes...
Ouais.
Parce que moi, j'ai été à l'usine en 74, 75, à Roll, par exemple, chez Rock.
Ouais.
Qui faisait des appareillages outillés et tout ça. J'ai travaillé pour la mairie à Roll, enfin des choses. Et les choses étaient très divisées. On appartenait à quelque chose et ça empêchait de communiquer avec les autres choses. Et donc là, ce qu'on voit dans Mao Cosmique, c'est qu'on soulève les barrières et qu'on va voir ce qu'il y a de l'autre côté.
Oui, et puis c'est sur un fond, justement, vaudois, c'est-à-dire quelque chose qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui et même à l'époque pour des Français ou d'autres. C'est-à-dire, tu sais que nous, on a deux grandes chaînes de distribution d'alimentation, c'est la Copé et la Migros. Tu n'allais pas à la Copé avec un sac Migros, ça ne se faisait pas. Les étés qui étaient aussi chauds qu'aujourd'hui, ou à peu près, enfin non, pas que le dernier, il n'y avait pas une personne qui était à torse nu dans la rue, à part les ouvriers italiens qui étaient tout
rangés. Bon, c'est terrifiant, je ne veux pas alimenter les préjugés, mais je viens de travailler sur Asger Jorn et Christian d'Autremont, c'est-à-dire des gens... qui ont fondé un mouvement qui s'appelle Cobra.
Ouais,
et Asger Jorn, qui a la tuberculose, se déplace d'endroit en endroit. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup dans sa vie, qui monte depuis son Danemark natal en vélo Solex à Paris. Son premier voyage, qui va travailler avec Le Corbusier et qui va travailler avec Fernand Léger. Mmh. Et il va en Suisse à un moment donné, à Versoix, je crois, il reste 4 mois. Et pendant 4 mois, personne ne lui parle. Et il devient fou. Et quand il va dans les bistrots, les mecs sont seuls à une table. Et moi, j'ai vécu ça. Par exemple, quand j'habitais à Rolles, je allais au bar à café, ce qu'ils appelaient les bars à café. Ouais. Et je parlais avec les ménagères parce que je ne pouvais pas supporter les mecs tout seuls avec leur carte de blanc, avec des verres minuscules. Et c'était épouvantable. Et donc, et moi, je me suis fait arrêter par la police, emmener au commissariat, ça, parce que simplement parce que je voyais des gens que c'était pas normal. Enfin, c'était. Il y avait un climat assez oppressant. Et là. Il y a une bulle qui est belle comme une bande dessinée de Crumb dans Mao Cosmic. Ouais, c'est un bon exemple, Crumb. Il y a une bulle de folie. C'est aéré, ça respire bien, ça cherche. Et ça a la puissance aussi de se voir soi-même, par exemple, comme fils de bourgeois, comme intellectuel, de se remettre en question. Tout ça, enfin, rien n'est donné. Et tout est offert. C'est magnifique.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc, sinon, après, oui, tu, dans ton activité professionnelle, mais je disais donc que tu vas faire, par exemple, à la Villette, l'ouverture de la Cité des Sciences.
Ça a été.
Un des boulots que tu as. Alors, on peut dire que tu as participé au film suisse le plus cher de tous les temps, paraît-il, qui s'appelle Les Petites Fugues.
C'est plus le film le plus cher, c'était à l'époque de ça. Il coûtait 2 millions, il a coûté 2 millions à l'époque.
Et ça fait 6 millions aujourd'hui.
Oh, ça ferait plus.
Et donc, il a fait beaucoup d'entrées.
Bah, c'est un des grands classiques du cinéma suisse.
Hein.
On a été dépassé que par Titanic.
Et il a tué le genre aussi du cinéma vaudois qui n'est jamais né. Enfin, c'est assez bien. Mais donc, tu as travaillé par hasard pendant un an avec un mec enfermé dans une pièce. Lui fumait le cigare, toi t'étouffais.
Yves Hirsin.
Et donc, tu fais ce scénario. Et après, tu laisses tomber. Tu continues à faire des petits boulots, comme on faisait à l'époque. Les wagons couchettes, je sais pas quoi. Mettre des publicités dans les boîtes aux lettres, toutes les conneries qu'on peut faire, et puis petit à petit, par hasard, les accidents
contre,
de la vie, tu te retrouves dans le cinéma et tu vas participer à 60 films à des niveaux divers.
Oui, absolument. Mais après les Petites Fugues, puisque c'était le titre du film de Hirsin, j'ai fait beaucoup, ce que je n'avais pas mentionné précédemment, j'ai fait beaucoup de vidéos, mais militantes en fait, donc avec des syndicats, avec des trucs comme ça. Et ça, c'était assez intéressant. C'était pas, j'appelais pas ça du cinéma, mais en fait, ça fait partie du cinéma. Après, effectivement, les films se succèdent plus ou moins. C'est toujours une espèce de chemin de traverse qui fait que tu tombes sur un truc, il t'arrive ça. L'histoire de la Villette, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est un énorme boulot qu'avait. C'est au début donc de la Villette.
C'est pas encore ouvert.
C'est quoi?
Vous avez fait l'ouverture?
Oui, on a installé tout un des étages, je ne sais plus lequel, c'était avant l'ouverture de la Villette. Et donc c'était assez intéressant, ça a duré au moins, c'est un de mes plus longs travaux, je crois que j'ai fait au moins 2 ans. Là.
C'est Daniel Schlepfer?
Daniel Schlepfer, lui, il était... non, il n'était pas là.
Et lui, c'était qui le type qui avait trouvé le...
C'était un type qui s'appelle Robert Bonner, qui est producteur de films et qui vivait à Paris avec Christine Pascal, d'ailleurs, la cinéaste et actrice qui est décédée il y a pas mal de temps maintenant. Et donc, lui, il avait reçu ce mandat. Donc, on a fait le boulot pendant, je te dis, encore 2 ans comme ça. Mais c'était intéressant. J'avais bien aimé. C'était pas mal.
Ouais, c'est formidable.
Le résultat était pas mal.
Ouais, c'est des universitaires qui vous disaient voilà où on en est avec le neutron.
J'étais en charge du scénario, donc j'avais Ils nous avaient collé, parce que c'était très. Enfin, comme Paris, comme la France, quoi. C'est incroyablement formaté administrativement, etc. Donc. Chaque sujet qui avait été proposé avait un répondant universitaire. Et c'était des calures, quoi. C'était des mecs intéressants. Et du coup, ça aussi, c'était passionnant, tu vois. Surtout que moi, je suis quand même assez curieux intellectuellement. Donc voilà, la construction de...
Et dans ce système d'audiovisuel, tu vas refaire avec ce Daniel Schlepfer qui est artiste multi...
Non, Daniel Schlepfer, lui, il n'a jamais pratiqué le cinéma.
À Lausanne, tu vas faire... C'est quoi? C'est de l'animation sur les murs? C'est de l'audiovisuel?
Non, avec Daniel...
Genre l'Institut de chimie, c'est quoi ce que vous avez
fait? Ouais, c'est-à-dire, bah, c'est ce fameux 1% culturel. C'est-à-dire, Daniel Schleffer est un artiste.
Un sculpteur.
Un sculpteur de lumière aujourd'hui. Et... Mais il avait commencé par des petites choses, etc. Et puis, on a été associés dans un boulot qui s'appelait les boîtes magiques, qui était un chemin de 14 km qu'il fallait animer.
Pour le 500e anniversaire pour de la Confédération, 400e
Non, c'était plus, attends, c'est 1291, donc c'était le 700e
anniversaire de la Confédération.
Et donc, avec Daniel, comme on est tombé en sympathie et en complicité... à la fois amical et artistique, quoi. On a fait plusieurs projets avec le 1%, qui est une merveille pour les gens qui savent rien foutre comme les artistes. C'est-à-dire qu'à chaque participation de l'État à une construction architecturale, il y a 1% de la somme qui est dévolue à une œuvre artistique. Donc comme c'est des coûts quand même souvent assez phénoménaux, et ça fait pas mal de fric. Et notamment, nous, on a travaillé sur... Bah, tu fais allusion à l'université de l'EPFL où ils avaient créé le bâtiment pour la chimie. Et donc là, c'était très intéressant parce qu'on a fait, sur un grand mur de 12 mètres de haut, 10 mètres de large, on a reproduit le grimoire alchimique, qui est l'ancêtre de la chimie, quoi. Donc on a fait plusieurs projets comme ça qui étaient chouettes, quoi. Mais qui étaient hors image animée, quoi. Qui étaient pas... C'était vraiment sculpture plutôt. C'était pas cinéma.
Et donc, moi, j'étais prof dans une école des beaux-arts. Et une année, j'ai fait comme sujet, avec mes premières, deuxième et troisième années, femmes. Parce que je sentais que ça commençait à émerger pas mal.
Et, c'est pas compris, femmes ?
Femmes, comme sujet, les femmes artistes, si tu veux.
Okay, ouais.
Mais il y avait les femmes artistes dans la peinture, la sculpture. Et c'était pour la troisième année. Et pour la deuxième année, il y avait les femmes écrivains. Et pour la première année, il y avait les femmes cinéastes.
Ouais.
Et donc, je t'ai vu en tant qu'acteur dans le film de Christine Pascal.
Oui.
Et j'avais 50 étudiants de première année en face de moi. Moi, j'étais sur le... C'était un amphithéâtre, donc j'étais dans la chaire. Et eux, ils étaient dans la salle. Et ils étaient très émus. Il y avait beaucoup qui s'étaient fait harceler par leur beau-père. Ah. Et donc, ce film avait mis sur la table le sujet du beau-père harceleur, je ne sais pas par quel mystère. Et donc, je t'ai vu, c'était très émouvant, parce que moi, je t'ai vu surgir dans mon cours en tant qu'acteur.
Ah, c'est marrant. Ouais.
C'est assez drôle, quoi. Ouais. Donc, tu as fait tous les rôles dans ces métiers de cinéma.
Oui, mais c'est aussi lié au fait que le cinéma suisse, il était quand même... Et maintenant, ça a changé complètement avec l'arrivée des écoles. Nous, on est avant les écoles, hein, donc ça fait un groupe comme ça qui... un peu affinitaire, et du coup tu fais tous les rôles, quoi. Robert, qui est un des plus grands producteurs suisses, Robert Bonner dont je parlais, lui il a commencé comme électro, donc il a fait tous les postes d'un plateau de cinéma, ce qui fait qu'ensuite quand il s'est occupé de films français, les gens qui bossaient sur les films étaient accablés parce qu'ils savaient tout, ils avaient tout compris et tout, donc ça les énervait énormément. C'est incroyablement hiérarchisé, hein, contrairement à ce qu'on pense. Là.
Et comme, en passant, puisqu'on parle de ça, moi aussi j'ai fait de la vidéo à 3/4 pouces, c'était très lourd.
Ouais, on n'avait pas de matériel. C'était humatique.
Et avec Sacha Baran, on avait tourné La Journée d'un Glandeur, donc c'était moi pendant. Il m'avait fait filmer.
Et c'était donc, criant,
je me déplaçais partout, le son était pourri. Ouais. Et à la fin, la conclusion c'était, si je continue à glander comme ça, je ne deviendrai jamais maître du monde.
Ouais.
Et donc, le mec qui dirigeait le musée cantonal à Rumine nous avait acheté la cassette quand même.
Ah, oui,
relativement cher pour nous, du genre 500 francs. Tu vois, c'était pas mal du tout. Et il disait, il est beau comme un dieu, il est beau comme un dieu. Tu dis, où est-ce qu'on va? C'est assez drôle. Et il y a un film dans lequel tu fais aussi, tu fais pas du tout l'acteur, c'est un film sur toi, que je n'ai malheureusement pas vu, et c'est un de mes grands regrets dans la vie, c'est connu de nos services du Petit Bron, parce que son père était imprimeur, donc je travaillais dans un journal. Le père, c'était le Grand Bron, l'autre, c'était le Petit.
Ouais,
et donc, il s'appelle Jean-Stéphane.
Ouais.
Et dit, raconte-nous de ce que c'est connu de nos services.
Jean-Stéphane, un jour... donc, Jean-Stéphane Bron, c'est un cinéaste aujourd'hui assez fameux, en fait. Il a fait
Film sur le Parlement suisse, là, qui était bien.
Qui était bien, qui est Miles in Bundeshaus, ça a été aussi un grand succès. Bien. Et puis, bon, il a une... il a une assise, quoi. C'est le l'heureux époux de Alice Vinocourt qui a réalisé le Revoir Paris, qui est un très beau film. Et donc, un jour, on était dans un bistrot, pour changer, avec, il y avait Luc Chessé, le photographe que tu connais, et puis Zalmay, un autre photographe. Et puis moi, je venais de recevoir mes fiches, parce que après la fin de l'URSS, il y a eu tout ce mouvement où on a découvert comment les États occidentaux surveillaient leur population potentiellement déviante et potentiellement révolutionnaire. Et donc, moi, évidemment, j'avais un dossier absolument considérable. C'était un bottin de téléphone, tu vois. Et c'était fait à la Suisse, c'est-à-dire avec la qualité suisse, l'arbalète, c'était d'une précision incroyable. Tous les téléphones qui, à l'époque, étaient écoutés. D'ailleurs, on commençait toujours les téléphones par « merde à ceux qui nous écoutent », parce que tout ça a été su. Mais les téléphones étaient écrits à la main par des scribes qui devaient être payés, je ne sais pas comment. Enfin, au moins, ça crée des emplois. Et donc, il y avait une précision, enfin, précision toute relative et beaucoup d'erreurs. Hein. Et puis, j'avais ce dossier avec moi, je venais de le prendre, je l'avais reçu, parce qu'on pouvait le commander. Et donc, il y avait des copains qui ne voulaient pas le commander, et moi, je voulais savoir. Donc, je l'ai pris et j'ai bien fait. Et puis, on commence à regarder ça en disant, mais c'est pas possible, ce truc. Et bon, on dit, ah bon, non, mais ça, c'est trop, je fais un film là-dessus. Et donc, il a entrepris de monter son film docu, en fait, hein, sur « Connu de nos services », parce que c'était l'expression consacrée. Et donc, voilà, il m'a soumis à la question, on a fait beaucoup de...
Et donc, tu racontes ta vie, alors, dans ce film ? Qu'est-ce que tu racontes ?
Qu'est-ce que je raconte, en fait ? Mais moi, tu sais, j'ai été un peu... L'idée, c'était, c'est ton film, Bron. Moi, je non ci metto lingua, c'est-à-dire, je lui ai amené deux cornets Migros de photos que j'avais, tu sais, les photos à l'époque, pellicule. Et puis, c'est lui qui m'a interrogé, mais c'était assez difficile. Je ne sais pas comment t'aurais réagi, toi, qui est assez bavard, parce que je lui disais un truc, puis il me disait, ah ouais, c'est super, mais il avait un chronomètre. Il faudrait que tu me le fasses en 42 secondes. Puis toi, t'as parlé deux minutes, tu vois. Donc voilà, voilà. Mais enfin bon, écoute, c'était une expérience sympa et intéressante. Et puis ça a mis quand même en lumière ce phénomène de surveillance invraisemblable, quoi. Mais ça, c'est la préhistoire, tu vois. Évidemment, c'était avant tout ce qui était informatique et tout. Aujourd'hui, ça devient... c'est émouvant tellement c'est ancien, quoi, tu vois.
Mais c'est important, c'est basculement. C'est un moment de basculement.
Ah,
c'est-à-dire
ouais,
quelque chose qui était paranoïaque cesse de l'être.
C'est-à-dire que
c'est la fin du mur. Quoi.
Il devient algorithmique, en fait. Ouais. Il n'est plus paranoïaque. Mais ouais, ça, c'était quoi ? C'était... je ne sais plus la date. J'ai toujours des problèmes de date, moi. Mais...
Et je repense à autre chose à propos de Mao Cosmic aussi. Ton refus de la France comme impérialisme culturel dans Mao Cosmic, c'est très intéressant. Ça. C'était ça, donc, mon idée de départ sur le canton de Vaud.
D'accord.
Tu vois,
Ok. Oui, c'était...
C'est quand même de revendiquer le lac, mais aussi de lutter contre cette emprise culturelle.
C'est surtout ça, c'est-à-dire, nous, on a vécu, enfin, à l'époque, hein, parce qu'on a un certain âge, évidemment, mais tout ce qui n'était pas agréé par Paris... passer sous la zone d'intérêt. Et donc, il fallait avoir une reconnaissance parisienne, quelle qu'elle soit, même pour les plus grands de nos écrivains, Ramu, qui rappelait d'ailleurs que nous, on est Languedoc et pas Languedoil, et donc on a une identité, machin. À l'époque, ça avait une certaine importance, mais je pense que maintenant, tu vois, avec le module européen omniprésent, c'est un peu disparu, quoi. Non, et puis nous, la Suisse, on est toujours, tu vois, les Suisses-Allemands par rapport à l'Allemagne, les Tessinois par rapport à l'Italie et nous par rapport à la France. Il y a toujours ce problème d'exister pour nous. Enfin, c'est le problème de tous les petites minorités, quoi. Enfin, les minorités, tout court.
Et donc, on avait... En 79, s'ouvre le musée de l'art brut à une fondation.
79,
c'est Michel Thévaux qui devient directeur. Et donc, moi, je vais à sa soutenance de thèse, par exemple, qui fait sur Michel Souter. Et je le connais depuis 5 ans à ce moment-là déjà. Et dès que je lis une de ses publications, ça m'agace tout le temps. Parce qu'il suit tous les modernistes parisiens. C'est-à-dire qu'il a sa période Derrida, il a sa période Deleuze et Guattari, il a sa période Foucault. Ouais. Et je suis totalement allergique à ça. Et moi, je fais 5 ans à la fac à Lausanne. Je trouve que c'est intéressant de dire ça à nos amis français et parisiens. Et ma culture, elle est orientée sur l'Allemagne, l'Italie. Elle ouais. est polyvalente. Elle n'est pas du tout une histoire de... Je fais de l'histoire de l'art. Et je n'ai pas du tout cette histoire de l'art français, essayiste, brillante et tout. Ouais. C'était un travail de fond. C'est de l'histoire ouais. sociale. Et mes références sont hongroises, elles sont, c'est Lukács, etc. Enfin,
oui,
c'est
très important.
Et Thévaux ouais. me paraît, c'est Antal, quoi, qui était un camarade de jeu de Lukács et qui invente l'histoire sociale de l'art, Frédéric ouais. Antal. Et Thévaux me paraît quelqu'un qui est mondain, superficiel. Donc je me suis fait rattraper, maintenant je l'aime beaucoup, c'est surtout parce qu'il a 83 ou 84 ans, qu'il a la pêche et que j'adore ça. Un mec de 84 ans qui a la pêche et qui publie un livre ouais, tous les 6 mois, je trouve ça absolument
ouais,
génial.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant, ouais. Et puis il a fait du bon boulot au Musée de la Brute, c'était un oui, très bon oui, directeur, non, il était génial, ouais, ouais. et je l'aime bien. Mais à l'époque, ça, il m'agaçait. Ouais. De pas revendiquer. Et il était très critique avec la Suisse, en plus, il était tout le temps...
Il est très critique avec la Suisse, qui est aussi un peu une posture, à mon avis.
Et c'est ses meilleurs livres, hein, La décapitation du Major Davel, c'est un très, très bon livre.
La Suisse n'existe pas, etc. Ah, ouais, le Major Davel, ouais. Non, mais si tu veux, ce que tu dis qui paraît important, c'est la situation de la Suisse fait que nous, on était imprégnés, et justement, de culture italienne, allemande beaucoup, quand même. Et du coup, ça relativise, alors que les frontières de l'Hexagone sont incroyablement fermées, quoi. Et moi, j'ai remarqué ça entre... C'est pas seulement qu'ils parlent, ouais. qu'ils parlent que le français, les Français, et ils parlent pas les langues. Enfin, à l'époque, hein, maintenant, les jeunes, ils parlent les langues. Mais c'est... Par exemple, par rapport à l'Italie, c'était incroyable, quoi. Il y avait une espèce de frontière hermétique où ils ne s'intéressent à rien d'autre qu'à l'Hexagone, quoi, enfin...
Ils ont une histoire riche, un oui, mais par exemple, un Breton va pas non plus ne pas être français. Enfin, c'est très paradoxal, quoi. Mais bon, ben, j'ai peut-être le moment de le dire que je suis bruxellois, donc c'est aussi...
et pas breton.
Et pas breton, et que c'est une espèce d'inexistence. C'est difficile d'appartenir à un petit pays. Bon, ben, c'est comme ça.
C'est bien, je trouve.
Et donc, je ne sais
pas... C'est bien parce que ça décentre.
Aligre FM 93.1.
Donc, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Je suis avec Claude Muret et j'en profite avant de lui donner la parole et qu'il va la garder après. J'en profite pour remercier Amazir Amidanguez qui est de l'autre côté de la vitre et qui fait le son pour nous. Et maintenant, donc, nous allons parler du 9 novembre 1932, si j'ai bien compris. Donc, tu vas nous expliquer quel est ton projet qui s'appelle La Cervelle. Écoute, à toi de nous expliquer tout ça.
D'accord. Donc, juste un mot sur la chanson que j'avais proposée. Gorizia, c'est une des plus belles chansons antimilitaristes de tous les temps. Donc, par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. J'ai, il y a quelques mois, dû travailler sur un texte d'un paysan soldat du pays d'en haut, qui était d'ascendance italienne et qui avait participé au combat de l'Isonzo. Gorizia, c'est les fameuses batailles gagnées par les Italiens contre l'Empire austro-hongrois. Une victoire absolument stupide qui ne sert à rien, mais qui fait 100 000 morts dans des conditions absolument incroyables. Et du coup, c'est vrai que quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu te dis que tu vois, le temps passe lentement, quoi. Enfin voilà, ça c'est une remarque sur ce chant. Non, la cervelle, c'est venu en fait parce que dans le système de cinéma suisse, on a une possibilité, quand on travaille sur des films, d'avoir un truc qui s'appelle succès cinéma, c'est-à-dire que tu peux prendre un peu d'argent sur les entrées, sur je ne sais pas quoi. Donc moi, j'avais 6000 balles qui traînaient à Berne, ce qui était quand même pas mal. Et pour ça, il faut proposer un projet. Il faut dire, voilà. Et puis, c'est assez amusant parce qu'au départ, c'est parti de manière, comme beaucoup de choses dans ce que j'ai fait. Jean-Stéphane Bron, dont on parlait, venait de faire un film qui s'appelle Le Cerveau. Et puis, je lui ai dit, tiens, c'est une idée marrante, moi je vais écrire La Cervelle. Mais c'était un peu un gag. Et puis après, j'ai commencé à réfléchir à l'histoire de la cervelle dans ma vie. Et en fait, je suis revenu à un incident dramatique que ma mère avait vécu à Genève le 9 novembre 1932. Lors d'une manifestation antifasciste qui avait pour but de protester contre une mise en accusation orchestrée par l'extrême droite dans la grande tradition fasciste, proprement fasciste, Géo Oltrama, qui était un leader fasciste genevois, mussolinien, pro-nazi, etc., avait voulu mettre en accusation deux dirigeants de gauche, Léon Nicole et le sieur Dicker. Dicker était un type intéressant, c'était un juif d'Odessa, d'ailleurs, dont le petit-fils s'appelle...
L'écrivain ?
Ouais, le petit-petit-fils, je ne sais pas exactement. Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il a un succès mondial, mais il ne mentionne jamais héritage.
J'ai écouté un de ses livres, c'est pas terrible. Hein,
ouais. Oh ben, je trouve que c'est d'une platitude absolue. Enfin, tant mieux pour lui, il en vend beaucoup. Mais ça m'a fait marrer, c'est le zéro de la politique, quoi. Il parle jamais de ce type formidable. Et donc, il y a une contre-manifestation organisée par les socialistes, les anarchistes et les communistes. C'est trois tendances du mouvement ouvrier de l'époque. Il y a à peu près 8000 personnes qui arrivent sur la place.
Une très grande place à Genève.
C'est la place qui est la place de Plainpalais. C'est donc une espèce de losange au milieu de la ville, qui est restée telle qu'elle d'ailleurs, qui n'est pas encore construite. Et là, le Frédéric Martin, qui est un conseiller d'État genevois, bourgeois, comme on disait, libéral en fait, demande l'aide de l'armée parce qu'il flippe complètement à l'idée que ça va être des bagarres épouvantables et tout. Qui était probablement le but de tous. Et donc, il fait venir l'armée. Le Conseil fédéral, après avoir... Parce que tu dois demander... Donc, c'est un canton, Genève. Tu dois demander l'autorisation au gouvernement fédéral de faire venir la troupe. Ils disent OK. Donc, la troupe débarque à la gare. Donc, tout ça, c'est pendant ce 9 novembre. Les crétins, ils font un défilé martial de la gare à la caserne pour bien montrer qu'ils sont là avec leurs fusils et machin. Donc, évidemment, un provocateur à mort. Donc, ça sent mauvais. Après, il y a une espèce de situation un peu chaotique. À un moment donné, la foule arrive à briser un cordon de policiers près de la salle où il y a le meeting fasciste. À l'époque, les gars, ils tapent avec le plat du sabre. Donc, ils tapent sur les mecs, ça se règle, etc. Et puis, à un moment donné, le fameux colonel Lédret, enfin fameux pour moi, pas pour vous, qui dirige cette troupe, a l'idée de faire de traverser la foule avec deux colonnes de soldats, mais un, les uns derrière les autres, à gauche et à droite du boulevard. Donc évidemment, les mecs, ils doivent passer à travers la foule, donc il y a des incidents, on leur crache dessus, il y a des bagarres, machin, il y a deux, trois fusils qui sont cassés, etc. Mais jamais un fusil n'est pris pour le retourner contre la troupe. Il place les gens en arc de cercle devant le palais des expositions, qui est le bâtiment tout près. Et là, il y a une espèce de confusion qui se fait, parce que t'as à peu près 200 personnes sur les 8000 qui suivent les soldats en leur disant « Camarade, sous ton uniforme, bats un cœur d'ouvrier, rompons les... etc. Tu vas pas tirer sur les ouvriers. » Bon, ils sont encore une fois assez peu. Et c'est surtout des communistes, d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y a une confusion qui fait qu'à un moment donné, on leur donne le feu. Et donc, les soldats tirent. C'est des soldats, en Suisse, c'est des conscrits. Hein. C'est des soldats, toi et moi, en gros.
Ils font leur service militaire,
oui. Ouais. Mais c'est une école de recrues. Ils ont 21 ans, les mecs. Ils n'ont jamais eu aucune idée du maintien de l'ordre, etc. Et donc, la fusillade dure 15 secondes, 21h34. Et ma mère, elle participe à la manifestation, elle est derrière le camarade Henri Fürst, qui était un ouvrier saint-gallois, qui était membre du comité central du petit parti communiste, et qui était probablement le président du parti communiste, je ne vois. Mais ils étaient, je pense, 50. Hein. Et du coup, lui, il reçoit une décharge de fusil mitrailleur dans la tête, et ma mère, qui est derrière, elle reçoit la cervelle sur sa jupe, sur son manteau, disons. Ce qui est quand même un truc assez important comme ça. Et puis, donc après, ça devient un exemple. Il y a une grève générale, mais enfin, qui n'est pas très suivie. Il y a une réaction internationale, en fait. Le Manchester Guardian, par exemple, il dit... mais on n'a jamais vu ça. À Londres, il y aurait eu deux chevaux et c'était fini. Jamais on a tiré sur des gens pour aussi rien que ça. Et donc, ensuite, il y a l'enterrement d'Henri Fürst avec la garde ouvrière. C'est un groupe d'ouvriers qui est avec des tenues militaires. Ils chantent la jeune garde, etc. Et donc, voilà, ensuite, il y a le procès contre des gens qui ont participé. Léon Nicole, le fameux Léon Nicole, qui est un dirigeant de gauche socialiste, de la gauche socialiste, enfin, qui se fera foutre dehors du PS... parce qu'il est justement trop à gauche. Il prend 6 mois ou 8 mois, je ne sais plus très bien. Mais par contre, l'année d'après, c'est-à-dire qu'il y a deux élections. Il y a une première élection en mars qui est perdue par la gauche, et puis il y a une deuxième élection en novembre où le Conseil d'État tombe dans les mains de Nicole, à la grande fureur des bourgeois. À l'époque, les conflits de classe sont vraiment très, très, très violents. Et donc, ça se termine comme ça, plutôt... plutôt bien, si on veut. Et mon histoire commence un peu plus tard, c'est-à-dire que j'apprends un jour par Jean-Louis Cornu, qui était un écrivain roman, qui connaissait ma mère parce qu'ils militaient ensemble pour l'aide au Vietnam. Et donc, je suppose qu'ils ont bavardé et que ma mère lui a raconté ça. Et il me le dit, il me l'apprend, en fait. Et donc, moi, je suis évidemment très frappé par ce récit. Pourquoi elle m'en a jamais parlé? Enfin, tu vois, c'est quand même assez marrant. Et puis, après, c'est vrai que les rapports entre générations étaient totalement différents. Tu vois, même les gens qui ont été dans les camps, ils ont pas parlé.
Ils avaient honte d'avoir survécu. C'était difficile pour eux.
Non, puis surtout, tu penses que tu ne peux pas faire porter ça sur tes enfants.
Mais c'est là que le moment est venu de dire que ta mère est juive.
Ça fait partie de l'affaire. Ma mère était une juive qui était orpheline très tôt. Sa mère était de Dniepropetrovsk à l'époque.
En Ukraine ?
En Ukraine, donc Dnipro au bord du Dniepr. Et le père venait de Khlov, qui est une ville qui est à l'est de la Biélorussie, tout près de la frontière russe. Donc, ukraino-biélorusse, juif, socialiste révolutionnaire.
Passeport Nansen.
Ah non, eux, ils étaient juifs russes. Enfin, ils étaient...
Et ta mère.
Après, ouais, parce que le passeport Nansen, il vient en quoi, 1920, 1925
28, je pense.
Comment ?
1928, je pense.
Ouais, c'est possible. C'est dans les années 20. Et donc, eux, parce qu'ils sont plus jeunes, hein, ils doivent quitter après les pogroms de 1905, après ce qu'on a appelé la répétition générale. Ils quittent, ils viennent probablement à Paris, parce que tous les socialistes révolutionnaires venaient à Paris à ce moment-là. Donc elle est juive de père et de mère. Et puis, ils arrivent à passer en Suisse, ce qui aujourd'hui serait pas possible. Et là, ils meurent très vite du cancer, les deux. Donc elle reste orpheline. Et puis, elle fait sa vie jusqu'à ce que, voilà, à Genève, à l'école, etc. Elle va au Boy Scout, enfin au Girl Scout. Et puis, elle est politisée, ce qui est le cas d'à peu près personne de femme. Il n'y a pas de femme, quoi. Elle se souvient un jour qu'elle a fait un cortège de manifs, je ne sais pas si c'était un 1er mai ou pas, où c'était la seule femme du cortège. Tu vois, ça devait être, elle est née en 11, elle devait avoir, tu vois, 18, 20 ans, comme ça. Et donc, elle est tout de suite dans le bain. Après, elle va à Zurich, où elle travaille à la librairie du Petit Parti communiste zurichois, qui était fondée par Théo Pinkus, qui est une personnalité très intéressante et un type formidable. Le fils est d'ailleurs électro, il vient de se faire honorer par le festival de Soleure, c'est un type formidable aussi. Et puis ensuite, elle revient, elle rencontre mon père, et puis là, ils sont emmerdés parce qu'à un moment donné, elle perd son passeport Nansen. Parce que le passeport Nansen avait été donné aux Russes apatrides, qui avaient été. Enfin, d'abord aux Russes, puis ensuite ça s'est étendu aux Arméniens.
Ouais, hein. J'ai un beau-père arménien
qui était aussi Nansen. Ouais. Et du coup, c'est pas énormément de gens. Hein. D'abord, non. C'est 200 000 Russes, ensuite c'est 400 000 personnes en tout. Il y a Chagall, Stravinsky, ces gens-là.
Nabokov
aussi, ouais, c'est assez marrant. Et puis ce Nansen est un personnage absolument extraordinaire. Sa vie est un roman. Alors là, la vie est un roman, ça s'applique à lui.
Quoi. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Mais le fondateur de la Croix-Rouge aussi, Henri Dunant.
Henri Dunant, moi j'ai.
C'est un escroc.
Pas vraiment, non. Moi j'ai eu très longtemps, j'ai un grand projet sur Henri Dunant que j'ai traîné pendant 20 ans et que j'ai jamais fait. Alors, il fait partie de ces personnages incroyables. Mais lui, quand même, Henri Dunant, tu vois, c'est un mec qui se clochardise à un moment donné avant de créer la Croix-Rouge parce qu'il court après Napoléon III comme un malade pour lui expliquer que ce qu'il a vu à Solferino, c'est pas possible, faut faire quelque chose.
Ah oui, parce qu'il était le précepteur de Napoléon III à Genève.
Non, lui, il était. Lui, il est. Quand on dit qu'il est Margoulin, c'est qu'il avait acheté des terres en Algérie, qui s'étaient révélées complètement nulles et stériles, et il a fait venir des colons. C'est une catastrophe.
On s'égare, là. Mais
oui, on s'égare. Ouais, on s'égare. Enfin,
c'est la même sauce. Ouais.
C'est ce type de personnage énorme, quoi. Et donc, voilà, le passeport Nansen, il lui a permis d'être légal, de vivre à peu près normalement, jusqu'à ce qu'elle le perde, je ne sais plus à quelle occasion. Et là, la question de... Donc, elle doit épouser quelqu'un pour avoir les papiers. Et donc, c'est un mariage organisé par le parti... Et c'est un nommé Franz Pingera, qui est d'ailleurs qui a été condamné aussi dans l'affaire du 9 novembre, qui s'y colle, si j'ose dire. Mais ils se connaissent à peine, parce qu'après, elle part, etc. Et un jour, c'est assez amusant, parce qu'au fin fond de la Suisse allemande, il y a un petit gars qui arrive vers elle après un meeting, qui lui dit « Vous êtes Charlotte, etc. »« Oui, je suis ton mari. » Et elle l'a absolument pas reconnu. Et lui, il avait trouvé une autre femme, il voulait se marier, donc il voulait divorcer. Et donc là, mes parents, ils étaient tout à fait opposés au mariage, en fait. Ça les emmerdait de se marier. Et du coup, ils se sont dit, mais on va se marier pour les papiers, mais ça va être la fin du couple, c'est classique et tout. Puis en fait, ils sont restés toute leur vie ensemble. Et je crois qu'ils s'entendaient vraiment bien, quoi. Et donc, je voulais... Tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, d'une part, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu, cet incident. Enfin, incident, c'est plus qu'un incident. C'est quand même 13 morts, 100 blessés, avec des... Si tu analyses cette situation, tu as une radiographie de la situation suisse, enfin, notamment genevoise, qui est absolument formidable. Et donc, je fais ce projet avec la perspective de pouvoir... c'est manifestement antimilitariste à fond, etc. Et puis, c'est arrivé à essayer de comprendre comment ces jeunes mecs peuvent tirer sur des ouvriers. Il y avait même un truc étonnant. Il y avait un soldat dont le père était dans la manifestation et il a été tué. Il faut aussi vous dire qu'ils presque tous étaient tués avec une balle dans le dos. Hein. Donc, ils étaient en train de partir. Quoi. Enfin, c'est un désastre absolu. C'est d'ailleurs assez curieux parce que à Granges, en 1918, c'est la seule grève générale qu'il y a eu en Suisse, le comité Dalton, qui était vraiment un moment exceptionnel. Il y a eu aussi... l'armée a aussi tiré. Et là, ils ont tué trois mecs dans le dos, pareil. Des jeunes types. Et c'était assez marrant, parce que... Enfin, marrant. C'était aussi un major vaudois qui avait ordonné le tir. Il s'appelait Pelé, ce type. Et là, celui qui, à Genève, a demandé le feu, lui, c'était le major Perret, qui est David Perret. Enfin, voilà, ça, c'est anecdotique.
Mais ils n'étaient pas valaisans, les militaires ?
Ils ont fait venir... D'abord, ils ont fait venir l'école de recrues de Lausanne.
Ah, c'est des vaudois.
Et puis, quand ils sont arrivés, ils ont fait le boulot sans problème. Et ensuite, les jours qui suivent ont évidemment été très tendus. Donc, il a fallu mobiliser 3500 soldats. Et donc, quand ils ont mobilisé ces soldats, il y a eu parmi les soldats mobilisés, enfin, c'était des jeunes types aussi, des chahuts, ils ont chanté l'Inter, ils ont fait chier le monde et tout. Donc, ils ont dit, on va pas prendre des romans, on va prendre des valaisans, parce qu'à l'époque, les cantons... Enfin, aujourd'hui, le Valais fait partie de la Suisse romande. Mais enfin, ils étaient déjà très réactionnaires. Et donc, ils ont dit, on va prendre des gens plus éloignés. Mais ils ont occupé Genève pendant 15 jours avec 3500, 4000 soldats. Hein. Il y avait des mitrailleuses à tous les coins de rue, etc. C'était une occupation, quoi.
Il te reste 10 minutes, hein, si tu veux évoquer l'entièreté de ton projet.
Oui, c'est vrai, c'est que je le mets en contexte historique, quoi. Mais si tu veux, l'idée, c'était d'une part de rendre hommage, évidemment, à ma mère. Il y a une veine dans le canton de Vaud, puisqu'on parlait du canton de Vaud. Il y a une veine littéraire qui est... liée à une espèce de frénésie autobiographique que tu illustres un peu dans ton travail d'écrivain, mon cher Tanré.
Tout à fait.
Et donc, moi, je voulais surtout jamais tomber là-dedans, d'autant plus que j'ai vu avec mes étudiants de la HAD que c'était le péché mignon de tous les gens qui commençaient le cinéma. Ils faisaient un truc sur leur grand-mère, sur un... Et moi, j'ai mis longtemps à accepter cette idée, parce que je trouvais que c'était beaucoup trop comme ça, quoi. Et du coup, moi, j'y vais à la fin. Ma dernière œuvre, c'est pas ma première, c'est ma dernière. Et donc, pour aller au cœur du truc, je voulais, d'une part, tu vois, faire comprendre... parce que pour moi, on est de nouveau dans les années 30, d'une certaine manière. Et donc, cette idée qu'on peut aussi de nouveau aujourd'hui tirer, c'est-à-dire tu peux tirer, c'est aussi venu d'un copain photographe qui avait travaillé sur les spots de l'immigration, là. Et qu'il y avait toujours des craintes que les types te tirent dessus. Et un jour, ils vont retirer sur des... Ça peut être des migrants, ça peut être ça peut être tout ce que tu veux, mais je pense que c'est encore devant nous. Et je me rappelais cette parole de l'écolo, là, je ne sais plus son nom maintenant, j'ai oublié, qui, déjà dans les années 60, René Dumont, c'était premier candidat écologiste.
Absolument, oui.
Qui avait dit un truc en 65, qui avait dit, mais il faudra bientôt penser à mettre des nids de mitrailleuses sur les ponts autour de New York, sur le Potomac, pour tirer sur les foules d'affamés. Ce qui était complètement prophétique, en fait. Et donc,
en fait, tu viens d'avoir, 62 morts juste en face de l'Italie, là.
Ouais.
C'est un petit peu ce que tu décris.
Oui, sauf que là, bon, bah, c'est aussi absolument immonde.
La première ministre est d'extrême droite, enfin, tu vois.
La Mélanie,
ouais. On y est, quoi.
Ouais. Écoute, la Mélanie, elle... Ouais, enfin, on va pas parler d'elle parce
on
que...
On n'a pas le temps.
Non, c'est dommage, bah, c'est intéressant. C'est ce qu'elle se démarque. En fait, c'est Berlusconi qui l'a fait ministre. Et elle se conduit comme une droite normale. C'est Salvini et l'autre qui sont plus problématiques. Mais, enfin, bon, c'était ça, l'idée. Et donc, comprendre par quel enchaînement tu peux arriver à l'inhumanité, en fait. Comment tu peux arriver... Et puis, comment tu peux arriver à déjouer ce type de situation. C'est d'ailleurs... Et puis, alors, après, je t'avouerai que je me suis un peu perdu. Parce que les années 30, c'est tellement abyssal comme situation. Et du coup, voilà, tu es pris entre des thématiques très marquantes, comme qu'est-ce que c'est, d'où vient la brutalité inhumaine. Là, je ne parle pas seulement de tirer, je parle des tortures, je parle des choses incroyables que tu peux faire à des braves
gens. Moi, je ne sais pas, mais donc on va bientôt devoir rompre l'antenne et nous allons la passer à cause commune, mais je te conseillerais de beaucoup travailler sur ta maman, de nous faire un portrait formidable de ta maman, de te laisser émouvoir, de chercher tout ce que tu peux, parce que ça sera très éclairant et ça permet l'identification aussi. Et c'est aussi un type de personnage qui a disparu, donc on a un vrai travail historique. Faire comprendre, ne pas caricaturer, de rendre toute la richesse, toutes les composantes, toutes les contradictions internes à ces personnages.
Oui.
Et leur rendre justice et rendre justice au monde aussi, et avec la plus grande sympathie, la plus grande empathie, le plus grand lyrisme possible.
Oui, et puis juste peut-être en conclusion, moi je dirais que du coup, ça me conforte dans comment je me considère, en fait. Je me considère un peu comme une particule infinitésimale, comme dit le camarade Mario Tronti, que j'aime beaucoup, du mouvement révolutionnaire, mais qui est peut-être millénaire, tu vois. Tu peux remonter, je ne sais pas, à Thomas Müntzer, tout ce que tu veux.
On peut prendre Spartacus, hein.
Oui, c'est absolument, ouais. Et donc, voilà, c'est ce point de vue que je trouve que ma mère représentait, mon père aussi, qui lui était d'origine plus bourgeoise, quoi. Et donc, voilà, c'est un peu ça la perspective, quoi.
On a eu un moment où c'était croque-mitaine d'être communiste, mais maintenant, avec le recul, ça peut devenir émouvant. Et puis, en plus, dans un contexte où ils étaient quand même ultra-minoritaires, donc on a... Et puis tout le côté juif, enfin tout le côté tragédie du XXe siècle, enfin t'as tout quoi dans ce personnage.
Oui, c'est ça qui
c'est,
me...
C'est t'as tout.
Je mets dans un shaker et agité.
Écoute, merci à toi, hein, c'est formidable, reviens quand tu veux. Bah, tu viendras nous présenter ton film quand il sera sur les écrans.
D'accord, si quand le monde sera toujours là.
Et si la radio elle sera encore là, bon. Écoute, merci d'être venu, on va avoir le générique de fin.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.